Chaque mois, le Graal, groupement des radios associatives libres, vous propose une émission d'une heure. La table ronde du Graal s'intéresse à un sujet de société ayant un impact en Limousin et Périgord.
Le Graal, Sébastien Péjou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. La table ronde du Graal est consacrée en ce mois de mars aux premières assises nationales santé, secours et territoire qui se sont tenues au moment où vous l'écoutez, les 14 et 15 mars. Mais nous sommes au centre culturel Yves Furet où se tiennent notamment un nombre important de plénières avec de nombreux sujets. Pour débuter cette émission, je suis en compagnie de Patrick Ertgen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin-chef du SDIS du Nord et surtout vice-président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. C'est à ce titre-là que nous allons parler un petit peu ensemble avec cette première thématique vers une meilleure coordination de la chaîne des secours. Oui. C'est un petit peu pour ça que sont faites ces assises. Première question. Quelles sont les problématiques les plus récurrentes que vous rencontrez, vous, au niveau des pompiers ?
Alors, on a plusieurs types de problématiques. On a, d'une part, une demande de plus en plus importante de nos concitoyens. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus souvent appelés et on nous sollicite de plus en plus pour des situations qui, autrefois, se résolvaient sans les sapeurs-pompiers. Alors ça, c'est lié à plusieurs choses, au fait notamment qu'il y a moins d'offres de soins, comme on dit, c'est-à-dire qu'on peut moins facilement se faire soigner qu'auparavant. Les médecins se déplacent beaucoup moins facilement à domicile parce qu'il y a moins de médecins installés et puis parce que ça prend beaucoup de temps de se déplacer à domicile. Aussi parce que la population qui autrefois gérait toute seule certaines situations avec des voisins, avec la famille, avec des habitudes d'autonomie ou de résilience, comme on dit, un peu plus importantes, aujourd'hui va plus facilement chercher le secours public. Donc la première question, c'est déjà que on nous appelle plus souvent. La deuxième question, c'est qu'on nous appelle parfois pour des choses qui pourraient être faites par d'autres acteurs. Alors je l'ai dit tout à l'heure déjà, par des voisins, par de la famille, mais aussi par exemple par des ambulanciers lorsqu'il s'agit uniquement de transporter une personne vers un hôpital ou vers un centre de santé parce qu'elle ne peut pas y aller toute seule. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que quand l'hôpital était à 3 ou 5 km de chez vous, c'était plus facile à y aller. Et quand il est à 25 ou 30 km, c'est un petit peu plus compliqué. Donc ça, c'est un deuxième facteur qui fait qu'on est sollicité de plus en plus souvent et que forcément, au bout d'un moment, si on va partout où on nous demande, on risque de ne plus être disponible. Là, il y a une vraie grande urgence.
Je crois que c'est 85% de votre temps, du travail des pompiers, c'est ça, c'est sur le transport, les secours à la personne. C'est vous éteignez quasiment plus de feu, quoi.
Alors, il n'y a pas plus de feu qu'il y en avait auparavant. Voilà. Et les soldats du feu deviennent des soldats du secours d'urgence aux personnes de plus en plus. Alors, pour fixer les idées, en 20 ans, entre 1998 et 2018, en 20 ans, on est passé de 50% de nos missions pour le secours d'urgence aux personnes à 84%, si on veut être précis, aujourd'hui. Donc effectivement, on fait de plus en plus de secours d'urgence aux personnes. Et heureusement, d'ailleurs, les incendies, les autres accidents sont à peu près stables.
Dans ces 84%, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites par des ambulances privées ou par autre chose que par les pompiers.
Oui, on est victime de notre succès. C'est-à-dire que les sapeurs-pompiers, on est dans le paysage. On répond très vite au 1812 et on y reviendra sans doute. On part pour des secours, c'est-à-dire pour une action qui consiste à porter secours, à aller mettre un pansement, aller faire un massage cardiaque, aller arrêter une hémorragie, aller mettre une attelle. Ça peut être très variable, mais en tout cas, on va faire quelque chose auprès de la victime qui en a besoin. On lui vraiment, lui, ce qu'on appelle une action de secours. Mais aussi, parfois, on est sollicité dans des situations qui sont des détresses médicales, psychologiques, sociales, où finalement, on ne fait rien d'autre que de la présence. C'est important, la présence. Mais on fait rien d'autre que de la présence et puis bien souvent du transport. Parce que bien souvent, quand on arrive chez les gens, on les apaise, on va, par notre présence, un peu améliorer les situations. Mais la réponse, c'est souvent, on va l'amener à l'hôpital. Et là, à ce moment-là, on fait quoi ? De la présence et du transport. Et ça, il n'y a pas forcément besoin de 3 sapeurs-pompiers qui vont tout à fait cessantes laisser leurs occupations à leur travail ou chez elles. Pour porter secours, il y a d'autres réponses possibles. Et donc, c'est ça qu'on voudrait faire. C'est pour rester présent pour du secours, ne pas s'épuiser en quelque sorte et se rendre indisponible à faire des choses qui pourraient peut-être être faites autrement.
Ces premières assises ne concernent pas uniquement les pompiers, c'est interprofessionnel, les sapeurs-pompiers, mais aussi les urgentistes, les ambulanciers, les pharmaciens, les aidants, les soignants, les médecins, élus, responsables d'EHPAD, etc. Tout le monde est réuni pour ces premières assises. Toutes les chaînes sont importantes et toutes doivent être attachées les unes aux autres solidement. Et parfois, ça manque un peu.
Exactement. Mais c'est une très bonne image. C'est tous les maillons de la chaîne qui doivent être cohérents et qui ne doivent pas être dispersés. Et ce qui marche très bien autour de nous, c'est la foule qui vient assister à ce qui me paraît assez nouveau quand même. C'est-à-dire qu'on prend deux jours, on se pose tranquillement pour discuter entre deux mondes qui ne se voient pas très souvent. Et en tout cas, qui ne prennent pas très souvent le temps de s'arrêter et discuter sur ce qu'ils font. C'est le monde de la santé, qui n'est pas forcément le monde de l'urgence. Hein. Le monde de la santé de manière plus large, c'est les médecins, c'est les infirmiers, c'est les autres professions de santé. C'est l'Agence régionale de santé, qui est représentée ici, l'Agence Nouvelle-Aquitaine, au plus haut niveau, hein, avec le directeur général, avec le directeur de l'offre de soins. Et ces gens-là qui s'occupent d'administrer la santé, qu'elle soit libérale ou hospitalière, et puis le monde des secours. Et on prend deux jours pour se poser, pour échanger nos points de vue, échanger nos difficultés et trouver des solutions. C'est-à-dire qu'on passe de chacun dans son coin à dire « Oh là là, c'est la faute à l'autre », à une situation où on partage les difficultés parce qu'on est tous dans le même bateau. On est tous face à des limites d'un système et on y arrivera vraiment si on est ensemble.
Il ne faut pas opposer les rouges et les blancs, c'est ce qu'a dit le président de votre fédération, M. Allion, au tout début de ces deux jours, le premier, voilà, le jeudi matin, il a commencé par dire ça, on est là tous ensemble, il ne faut pas opposer les blancs et les rouges, donc
c'est
les
très
médecins
important.
Et les pompiers. Quoi.
Ce qu'a dit Grégory Allion, le président de la fédération, c'est très important. Pourquoi ? Parce que très souvent, quand on parle de ces sujets-là, on nous renvoie dos à dos et on nous dit « bah oui, c'est bien, c'est encore la guerre des rouges et des blancs ». Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable pour tout le monde. Hein. C'est insupportable pour nos camarades hospitaliers. Et c'est insupportable pour nous parce que, du coup, on ne peut plus débattre. On stérilise le débat en disant « Ben, c'est bon, ils vont se faire la guerre, il y en a marre. » Non, c'est pas ça. Là, on discute, on est apaisé. C'est pas la discussion qu'on a entre deux couloirs rapidement comme ça où on dit « Ah, c'est de la faute à l'autre », comme je viens de le dire. On se pose et on parle de ces sujets qui sont des sujets où on a chacun notre rôle. C'est pas le même rôle. Mais en revanche, on est autour du même sujet. Et le sujet, c'est ce que nous appelons les victimes, c'est ce que la santé appelle les patients, ben, ce sont dans tous les cas les personnes qui sont autour de nous, qui pourront être nous un jour, et on leur doit quelque chose, c'est qu'on leur doit un service public.
Vous espérez quoi de ces assises, de ces deux jours ?
On espère, ben, premièrement, ce que je viens de dire, c'est-à-dire ouvrir un espace de discussion. Et là, je peux vous dire que les premières heures, les premiers débats ont montré que ça marchait très fort, qu'il y avait des questions, que les gens intervenaient. Et puis deuxièmement, on va publier les conclusions de tout ça. C'est-à-dire qu'on prend des notes, tout ce qui est dit est noté. On va faire une synthèse et on va présenter au pouvoir public une synthèse, non pas de ce qui pourrait autrefois être apparu comme le conflit systématique les uns contre les autres, mais ce que pensent les professionnels, chacun dans leur métier, sur ce sujet-là. Et on va dire, voilà, aujourd'hui, on est dans un grand débat national. On parle de beaucoup de choses. Dans le grand débat national, il n'y a pas de sujet santé. Bon. Mais nous, on a un grand débat sur un sujet qui est un sujet santé des territoires. C'est aussi pour ça qu'on le fait ici à la Souterraine, dans la Creuse. C'est pas que des débats parisiens. Et on le fait dans le territoire et le résultat de ces deux jours, ça va être qu'on va dire messieurs les décideurs, messieurs les gouvernements, voilà ce que nous on rencontre et voilà ce que nous on propose.
Voilà, un espèce de livre blanc sera remis aux différents ministères.
Oui, on n'a pas, je sais pas si on va peut-être appeler ça un manifeste, un livre blanc, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, on va présenter, non pas un cahier de doléances avec « ça va pas », avec des propositions. Parce que se plaindre ou dire que c'est de la faute aux voisins, c'est facile. Faire des propositions ensemble, c'est beaucoup plus fructueux.
Au niveau des pompiers, comment ça va ? Est-ce que vous êtes suffisamment nombreux ? Est-ce que vous avez suffisamment de moyens ? Est-ce qu'il y a suffisamment de pompiers volontaires ?
Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a besoin de plus de moyens, qu'il nous faudrait plus d'argent, que ce serait parfait, parce que le problème n'est pas exactement là. On a un vrai problème autour du volontariat et autour d'aujourd'hui de ce qu'on appelle une directive européenne du temps de travail. Alors, ça va paraître technique, mais en deux mots. En 2003, l'Union européenne a donné des règles de droit social, c'est-à-dire la protection des travailleurs contre le dumping social. Vous vous souvenez, on parlait du plombier polonais, hein, c'est-à-dire d'États membres de l'Union qui n'ont pas les mêmes pratiques sociales et donc ils vont en quelque sorte casser les prix. Et donc la France avait été à l'initiative en 2003 d'une directive européenne qui donne les bases je vais dire, du bon traitement des travailleurs. Ça, c'est très bien. Sauf que plus de 15 ans après, un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne vient de nous dire « Mais en fait, le sapeur-pompier volontaire, dans telle situation très particulière, on considère que c'est peut-être un travailleur. » Et là, ça nous pose un vrai problème. Parce que non, le sapeur-pompier volontaire, ce n'est pas un travailleur. C'est un citoyen engagé. C'est quelqu'un qui a une activité qui est fondée sur l'altruisme et qui n'est pas un travailleur à temps partiel. Et c'est quoi ces règles ? C'est le temps de travail, c'est 11 heures de temps de travail quotidien, c'est 48 heures hebdomadaires, c'est des choses comme ça. Mais c'est très bien pour protéger le travailleur. Mais en revanche, si vous êtes sapeur-pompier volontaire chez vous et que votre voisin, peut-être à 2 heures du matin, va avoir besoin de vous parce qu'il fait un malaise, parce que ça brûle, parce qu'il y a un accident, on ne va pas s'arrêter parce que ça fait plus de 11 heures que vous avez commencé votre travail. Donc on est sur des champs très différents, mais on est un petit peu rattrapé par une sorte de technocratie européenne. On n'est pas du tout anti-européen, je voudrais le dire. On pense que l'Europe est là pour protéger, et cette Europe qui protège, elle doit pas, pour de mauvaises raisons, être une Europe qui freine l'engagement en volontariat. Donc les sapeurs-pompiers volontaires, on en a besoin. Aujourd'hui, ils sont un peu moins de 200 000 en France. On voudrait au moins passer cette barre symbolique de 200 000, et surtout, on voudrait faire disparaître ce cauchemar qui serait de dire ça devient des travailleurs à temps partiel, et on va leur mettre un dispositif très compliqué qui n'a pas été destiné à ça.
Du coup, ça peut finir de décourager les employeurs aussi, qui vous
allez
pas
voir. Voilà. Parce que si l'employeur, vous lui dites que le temps d'astreinte du sapeur-pompier volontaire qu'ils vont embaucher le lendemain matin sera considéré comme du temps de travail, il va se dire, oulala, attendez, c'est trop compliqué. Moi, je ne veux plus embaucher de sapeur-pompier volontaire parce que ça devient ingérable.
Eh bien, merci beaucoup. Un petit mot de conclusion peut-être sur ces assises et comment vous avez ressenti ce moment ici.
Moi, j'ai envie de dire deux choses. Premièrement, c'est un accueil des Creusois et à la Souterraine en particulier, de gens absolument passionnés. Et ça, vraiment, c'est important parce que on travaille bien, on échange bien quand on est dans un cadre où on est attendu, où on est bien. Et deuxièmement, et je l'ai dit, mais je veux le répéter, des échanges apaisés de deux mondes qui se connaissent en fait assez mal, qui se connaissent de loin, et là qui prennent le temps de travailler vraiment sérieusement ensemble.
Il va y avoir une deuxième édition.
Eh bien oui,
très
en fait il y a déjà une deuxième édition parce qu'on a déjà des gens qui nous disent nous, dans notre département, on voudrait bien faire la deuxième, et je pense qu'on fera une deuxième.
Patrick Ergen, merci beaucoup, médecin chef du SDIS du département du Nord et vice-président de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, la FNSPF. Voilà, je cherchais l'acronyme. Merci beaucoup d'être venu sur cette table ronde.
Merci à vous.
Je n'avais qu'un rêve, c'est le camion rouge. Quand du psaume dans la poche, pas le choix, il faut que tu bouges. Tu mets la tenue topée, paré à décoller. Le dos tourne rond entier, la pression commence à monter. Une seule idée en tête, savoir ce qui s'est passé. Et là, le choc pour nous, c'est un bébé inanimé. On a tout essayé, on l'a massé pour le réveiller. Le verdict est tombé, son cœur s'est arrêté. De battre, tu hâte à combattre tous ces dangers. Car dans notre beau métier, mieux vaut savoir vite oublier. Cela fait déjà 4 ans que j'exerce cette passion. Et je vous l'avoue, franchement, j'ai toujours autant de frissons. On est de nouveau appelé pour un feu de forêt. Le cuir, les gants, le casque, toujours prêt à missionner. Devant nous un gros feu, un véritable brasier. Cet instant je l'attendais pour le gérer en tant que pompier.
Au cœur du combat, ils luttent depuis toujours. Ils font leur métier souvent avec amour. Sauver ou périr, une devise symbolique. Ramener quelqu'un à la vie reste un moment magique. Au cœur du combat, ils luttent depuis toujours. Ils font leur métier souvent avec amour. Sauver ou périr, une devise symbolique. Ramener quelqu'un à la vie reste un moment magique.
Messieurs, vous savez, je suis obligé de vous remercier. Je viens vous honorer, sans vous, qu'est-ce que ça serait? Vous avez tout mon respect quand je vois tout vos efforts.
Sébastien Péjou.
Deuxième partie de cette table ronde du Graal consacrée ce mois-ci aux premières assises nationales santé, secours et territoires qui ont lieu à la Souterraine, en Creuse. Nous sommes toujours à l'espace Yves Furet de la Souterraine, cette fois-ci en compagnie de Catherine Aupetit. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de l'Agence régionale de la santé de Creuse.
Oui, délégation départementale de la Creuse, c'est tout à fait cela.
Et Catherine Salotte, vous êtes directrice personne en perte d'autonomie, c'est le terme officiel, au sein du conseil départemental de la Creuse.
Bonjour.
C'est bien ça, j'ai pas
dit
d'erreur.
C'est ça, tout à fait.
Très bien. Cette partie-là va être consacrée à la question comment faire installer des médecins en Limousin et Périgord. D'abord, est-ce qu'on manque de médecins, Catherine Aupetit, en Limousin et en Périgord et en Creuse, puisque c'est le département que vous connaissez le mieux?
Alors très clairement, la carence commence à s'installer. À ce jour, c'est extrêmement tendu, mais pour autant, on arrive tant bien que mal à faire face un petit peu aux besoins de la population. Ce matin, on a vu que sur certains territoires, il y avait des patients qui n'avaient pas de médecins traitants. Donc c'est quelque chose qui n'est pas ni complètement marginal, ni complètement installé dans notre département, mais on commence à voir arriver des personnes qui sont un petit peu en errance pour avoir accès aux médecins traitants.
Est-ce que c'est plus la zone rurale qui est concernée ou pas forcément ?
Pas forcément. On l'a vu ce matin qu'il y avait des... Alors, dans les zones urbaines, de manière générale, ça semble assez bien couvert. Mais encore, je serais tentée de dire, dans les zones urbaines attractives, type Bordeaux, quand on arrive sur des zones urbaines peut-être un petit peu moins bien connotées, dont on peut avoir des représentations un petit peu plus négatives et pas forcément à juste titre, mais pour autant, ça fait partie des critères d'attractivité, on voit aussi des carences médicales s'installer.
Alors, on pense que la Creuse est forcément moins bien dotée en médecins que d'autres départements. C'est pas vraiment vrai.
C'est pas complètement vrai. C'est pas complètement vrai. La Creuse n'est pas le parent le plus pauvre de la France en termes de médecins. Pour autant, c'est à nuancer avec l'âge des médecins. Nous avons un pourcentage de médecins généralistes, notamment, qui est, je crois, on est à peu près de 50% de nos médecins généralistes qui ont plus de 60 ans. Donc, si à ce jour, on n'est pas dans une carence massive et avérée, on est pourtant à un point de fragilité avec un risque de bascule important.
Voilà, ça a été évoqué aussi lors de la plénière où on disait attention, pendant les 5-6 années à venir, beaucoup de médecins vont partir à la retraite, donc c'est maintenant qu'il faut commencer à se poser les bonnes questions.
Exactement.
Il y a des choses aussi peut-être avec les internes, on a parlé des internats, peut-être que la solution pourrait être de faire venir davantage d'internes pour faire leurs dernières années d'études.
Bien évidemment, parce qu'on se rend compte que l'exercice rural, quand on ne l'a pas pratiqué du tout pendant ses études, il perd vraiment de son attractivité. Donc pour que un jeune vienne ou un moins jeune vienne s'installer, il faut qu'il ait connu cette pratique-là. Et comment connaître cette pratique-là si il n'y a pas de maître de stage en capacité de l'accueillir. Donc notre action est aussi d'essayer de mobiliser les médecins généralistes pour qu'ils puissent s'engager dans cette démarche qui leur coûte entre guillemets du temps aussi puisqu'ils doivent se former pour pouvoir accueillir des internes. Mais ils doivent, lorsque l'interne est là, pouvoir l'accompagner aussi dans son cursus. Donc c'est un investissement à long terme qui permettra de gagner du temps pour la suite. Comme on le dit très clairement, il faut savoir peut-être perdre du temps maintenant pour pouvoir en gagner par la suite.
Des solutions pour faire venir des médecins, pas que des médecins d'ailleurs, peut-être aussi des infirmiers, infirmières, aides-soignants, etc. Pour attirer, est-ce que une des solutions, pas forcément la solution, mais sont ces fameuses MSP, on entend parler de ces maisons de santé pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle. On a évoqué aussi durant ces plénières, il va falloir doubler le nombre d'ici 5 ans sur la Nouvelle-Aquitaine, on a entendu ça aussi lors de ces plénières. C'est une des solutions ça pour attirer
solutions. On sait très bien que les jeunes générations, notamment chez les médecins, plébiscitent l'exercice regroupé. Donc déjà l'exercice isolé, ils le trouvent peu confortable, d'autant plus sur nos territoires où on peut être loin d'un plateau technique. Quand je dis loin, c'est à une demi-heure. On n'est pas non plus à 3 heures d'un plateau technique. Mais ce sentiment d'isolement peut être aussi un des freins à l'installation. Donc le fait d'être regroupé, en exercice regroupé, de pouvoir voir son confrère, sa consœur et pouvoir échanger avec lui sur des cas particuliers est un attrait supplémentaire. Donc d'où l'idée d'un immobilier regroupé avec les maisons de santé, mais pas seulement un immobilier regroupé, on est aussi sur un projet de santé. Parce que outre la demande de travailler en exercice regroupé avec ses confrères, consoeurs, il y a aussi la demande de travailler en coordination avec les autres professionnels de santé, les paramédicaux, que ce soit les infirmiers, que ce soit les masseurs-kinésithérapeutes, toutes les professions qui œuvrent dans le champ de la santé et avec qui il est nécessaire de travailler pour une meilleure prise en charge du patient. Donc les jeunes, on sait que les jeunes générations sont dans cette, pour la plupart, bien évidemment, on trouvera toujours un cas qui va infirmer la règle et qui va vouloir faire une installation en pur et dur, isolée,
libérale.
Et ça, on l'entend aussi, on accompagne aussi ce type de projet. Mais si on est plus volontiers sur les maisons de santé, c'est vraiment parce qu'on a sentiment que ça répond aux besoins des jeunes générations de professionnels de santé.
Et les générations aussi qui arrivent vont peut-être préférer être salariés plutôt que réellement lâchés en libéral.
Alors on commence à le voir arriver. L'attractivité du libéral perd un petit peu aussi, à moins le vent en poupe. Hein. Donc on a des demandes d'exercice salarié et on travaille aussi à accompagner les collectivités territoriales ou d'autres structures et dispositifs lorsqu'ils souhaitent mettre en place un centre de santé. Mais on essaie même de travailler sur des dispositifs innovants qui permettrait à la fois dans une maison de santé d'avoir un exercice libéral, mais aussi un exercice salarié. Donc soit se côtoient des médecins qui sont libéraux et d'autres qui sont salariés, soit un même médecin peut cumuler les deux, peut à la fois faire sur un temps de l'exercice libéral et sur un temps de l'exercice salarié.
Une des critiques de CMSP, c'est que parfois, ça peut éloigner le patient. Par exemple, à une époque, chaque commune quasiment avait son médecin généraliste et maintenant, chaque commune n'aura pas une maison de santé. Donc, un des reproches, c'est ça, c'est qu'on éloigne peut-être un peu parfois le patient et un médecin, lors d'une des matinées, qui évoquait ce problème des sans-voix où on abandonnerait comme ça des personnes qui n'auraient pas les moyens de se déplacer pour aller sur ces maisons de santé. Est-ce qu'il y aurait des solutions pour pallier à ce genre de choses?
Mais écoutez, oui, on sait que forcément, à partir du moment où on va concentrer une offre sur un territoire, je serais tentée de dire, à ce stade, il n'y a pas le choix. Puisque ça répond à la demande, on sait très bien que le médecin dans le centre-bourg, entre le clocher et la boulangerie,
Le nouveau médecin ne viendra pas s'installer.
Il ne viendra pas. Cette configuration, ça n'est plus possible. Alors, on peut en avoir tous les jugements de valeur que l'on veut. Pour autant, c'est un constat. Et donc, face à ce constat, que devons-nous faire ? Effectivement, ça pose la question de peut-être un petit peu plus moins de proximité, mais je serais tentée de dire que tout est relatif. On essaie, par exemple en Creuse, hein, de manière très claire, de mailler l'ensemble du territoire, de manière à ce que les maisons de santé ou les offres de soins, parce qu'il reste aussi des cabinets libéraux qui rendent un vrai service à la population, on essaie de mailler ce territoire afin que l'usager n'ait pas à faire une distance trop importante. Mais par ailleurs, il n'existe pas de supermarché dans chaque centre-bourg. Il n'existe pas tous les services. Chaque centre-bourg ne porte pas tous les services du monde. Donc la santé, au même titre que les autres. Mais pour autant, il faut aussi s'assurer que tout le monde puisse y accéder. Donc la question de la mobilité est importante. On essaie de travailler aussi avec les collectivités territoriales, puisque la compétence mobilité appartient aux collectivités territoriales et pas à l'ARS, hein, bien évidemment. Mais ça fait partie des choses qui sont en pourparlers. Quand on a du transport à la demande sur un territoire, si ce transport à la demande peut être mobilisé pour aller faire ses courses au supermarché, est-ce qu'il ne peut pas de la même manière être mobilisé pour aller à son rendez-vous chez le médecin?
Alors justement, Karine Salotte, sur ce sujet, au niveau du conseil départemental de la Creuse, des choses peuvent se faire?
Alors, sur
des
le
choses se font peut-être déjà.
Voilà. Alors, sur le transport pour les rendez-vous médicaux, on a un service spécifique, nous, qui s'appelle le transport adapté accompagné, qui est une offre qui est incluse dans les plans d'aide APA domicile, qui est totalement financée et qui permet aux gens, alors moyennant quand même un reste à charge qui est en lien avec leur revenu, mais qui permet aux gens de finalement d'aller à tous ces rendez-vous médicaux, mais aussi fréquenter des accueils de jour, etc. Alors, ce n'est pas dédié qu'à ça, mais une grande partie aujourd'hui des sollicitations du transport adapté accompagné qui est assuré par une association qui s'appelle Horizon Limousin Service et pour les amener dans des rendez-vous médicaux effectivement qui sont peut-être un petit peu éloignés de chez eux et auxquels ils ont besoin d'aller pour leur propre santé.
Quel lien on peut faire, Catherine Aupetit, entre CHU, Centre Hospitalier Universitaire, hôpitaux de proximité et maisons de santé?
Alors je crois que c'est, on est dans la gradation des soins et avec des recours différents en fonction de la pathologie, mais aussi au-delà de cette vision pour telle pathologie ou pour tel type de traitement, j'ai besoin d'aller voir mon médecin traitant, après j'ai besoin d'aller dans l'hôpital de proximité ou j'ai besoin d'aller au CHU. Donc bon, ça, on peut parler de gradation des soins, ça je pense que ça parle assez bien à tout le monde. Pour autant, il n'y a pas que cet aspect-là. Ces différents dispositifs ou institutions interagissent entre eux. En exemple illustratif, un hôpital de proximité peut être une ressource sur le premier recours pour son territoire. Il peut aussi proposer des consultations avancées de médecins généralistes. Il peut proposer des consultations aussi de médecine générale et qui ne sont pas destinées aux patients qu'il a à l'intérieur de son hôpital, mais bien aux habitants du territoire. Le GHT, quand on parlait du groupement hospitalier de territoire, a toujours un établissement support qui est souvent un CHU, et donc ce CHU est souvent un petit peu plus mieux armé que ne le serait l'établissement de proximité. Donc quand c'est possible, il met à disposition ses ressources médicales. C'est lui qui va envoyer les spécialistes qui vont faire des consultations avancées dans les hôpitaux de proximité. C'est lui qui potentiellement peut partager des postes d'assistants médicaux qui auront une partie de leur activité au sein du CHU, mais aussi une partie de leur activité au sein d'un hôpital qui est plus en proximité.
Une dernière chose, puisqu'on arrive au terme déjà de cette partie, l'ARS, l'Agence régionale de santé, Nouvelle-Aquitaine, mais aussi au niveau des départements, met en place des aides pour faire installer des jeunes médecins.
Exactement. Il y a avec les collègues de l'assurance maladie, puisque les financements sont souvent ceux de l'assurance maladie, pas uniquement, mais en grande partie. Chaque fois que l'on a connaissance de l'installation ou des velléités d'installation ou qu'un médecin prend des renseignements, bien sûr que l'on va l'informer de toutes les aides potentielles auxquelles il est éligible pour conforter un petit peu son installation. Alors ça va de ce qu'on appelle du CAIM, le contrat d'aide à l'installation des médecins, qui peut aller jusqu'à un financement de 50 000 euros en deux fois, sous réserve que le médecin accepte d'être pour 5 ans sur le territoire. Il y a aussi des aides qui sont plus spécifiques à l'ARS, qui permettent lorsqu'on est un jeune médecin, qu'on arrive sur un territoire, et même si le besoin est important, on sent bien que la population est des fois un petit peu méfiante, et donc il va avoir un petit peu de temps avant de faire sa patientèle. Donc ça permet de compléter son revenu jusqu'à ce qu'il puisse avoir une patientèle suffisante pour vivre décemment de son art, si je puis dire.
Alors, je reviens juste rapidement sur les MSP, les maisons de santé pluriprofessionnelles. Combien en Nouvelle-Aquitaine, question piège, combien il y en a actuellement ?
Question piège, je ne l'ai pas en tête.
Combien il y en a en Creuse actuellement ?
Alors actuellement, nous en avons 4 qui sont ouvertes en Creuse et nous en avons une qui est en cours de construction. La première pierre est posée, mais elle n'est pas ouverte. Et nous en avons, nous avons 4 projets, enfin 2 maisons bisites qui sont validées, mais dont la première pierre n'est pas posée, qui verront le jour. Et nous avons 3 projets qui sont encore à l'étude. Donc on va avoir un maillage quasi exhaustif du territoire creusois si tous ces projets aboutissent.
Catherine Aupetit, merci beaucoup. Karine Salotte aussi, on se retrouve après une petite pause. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Párate que cueres si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto. Y ese de tu cuerpo todo un manuscrito.
Sébastien Péjou.
Troisième partie de cette émission au sujet des premières assises nationales santé, secours et territoire. Nous sommes à la Souterraine en compagnie toujours de Catherine Aupetit. Vous êtes directrice adjointe de l'Agence régionale de santé de la Creuse et Karine Salotte du conseil départemental de la Creuse à la direction des personnes en perte d'autonomie. Cette partie, c'est surtout avec vous qu'on va la passer puisqu'on parle de la problématique du maintien à domicile. Combien y a-t-il d'EHPAD déjà en Creuse? Est-ce que ça, vous le savez, ou est-ce que c'est aussi une question piège au niveau des chiffres?
31
EHPAD. Est-ce qu'on préfère aller à l'EHPAD ou rester chez soi? Vous vous dites qu'il faut qu'on puisse faire les deux en Creuse.
Alors, c'est nécessaire d'avoir les deux parce que l'on ne touche pas les mêmes publics. Mais clairement, aujourd'hui, même pas qu'aujourd'hui, historiquement, en Creuse, le choix des Creusois, et plus généralement, ça se retrouve aussi dans la consultation Grand Âge et Autonomie lancée pour la future loi, globalement, le Français et le Creusois souhaitent rester à domicile le plus longtemps possible.
Quelles sont les solutions qui sont proposées par le conseil départemental pour ce maintien à domicile?
Alors nous sommes particulièrement compétents sur la dépendance, donc nous prenons en charge des personnes qui ont un niveau de dépendance qui va d'une cotation d'un GIR 4 à un GIR 1.
Faut nous expliquer ce que c'est.
Alors oui. Le GIR, c'est le groupe iso-ressources, c'est une grille qui permet de définir ce que la personne est en capacité de faire ou pas et qui du coup va déterminer son niveau d'autonomie. Donc les GIR 5 et 6 sont gérés par les caisses de retraite et puis les 4 à 1, c'est géré par le conseil départemental sous sa compétence à travers des plans d'aide que l'on appelle les plans d'aide APA, puisque financés par l'allocation personnalisée d'autonomie.
Le département de la Creuse, comme beaucoup de départements, est un département où la population vieillit. Donc, dans quelques années, il y aura peut-être beaucoup plus de personnes qui vont vous solliciter pour ce maintien à domicile.
Oui. Alors, néanmoins, je pense que la Creuse va marquer le pas dans quelques temps. Tout simplement aussi parce que notre population globale diminue. Donc ce qui risque de se produire, c'est qu'on va avoir des gens beaucoup plus âgés. Par contre, parmi notre panel, on est quand même sur un département qui accuse 36% de personnes de plus de 60 ans et 18% de plus de 75 ans. Et je pense qu'à terme, la proportion des plus de 75 ans va s'accentuer. Et du coup, les questionnements par rapport à leur prise en charge, notamment au domicile, vont être plus prégnantes parce que qui dit avancer en âge dit aussi une dépendance plus importante, plus installée, et donc nécessite d'être plus inventif aussi dans les dispositifs de maintien à domicile que l'on peut faire, sachant que, je tiens à le rappeler quand même, tout maintien à domicile trouve à un moment donné ses limites, et c'est là aussi le rôle des établissements de prendre la relève lorsque le maintien à domicile, pour des raisons personnelles, sociales ou familiales, n'est plus possible et que la personne doit être institutionnalisée.
Est-ce que vous avez des retours sur la téléassistance? Est-ce que ça existe toujours? Est-ce que ça fonctionne, ça?
Oui, très bien. En Creuse, on a plus de 3000 abonnés à la téléassistance, dont la moitié, un peu plus de la moitié, sont sur le pack domotique à domicile, qui comprend la téléassistance, mais également tout un tas d'autres équipements associés
comme
à la
quoi,
téléassistance.
Par exemple,
Alors, on a le chemin lumineux qui permet de relier les pièces d'eau et les pièces de sommeil. L'idée là-dedans, c'est d'éviter les chutes des personnes âgées. Donc on est dans la prévention des chutes. Nous avons aussi des capteurs de température qui permettent d'identifier lorsque la température, notamment en période froide, baisse trop, ce qui veut dire que la personne rencontre peut-être des difficultés pour chauffer sa maison. Des températures hautes aussi qui incitent à des messages de prévention pour s'hydrater, pour boire régulièrement. On a évidemment des capteurs de monoxyde, des capteurs de fumée. Et puis, finalement, ce dispositif, tous ces capteurs sont reliés au dispositif de téléassistance qui permet d'émettre un signalement en cas d'anomalie et qui permet des alertes. Ça, c'est le pack de base, mais on peut associer désormais, dans la nouvelle génération de nos packs domotiques, tout un tas d'autres dispositifs optionnels qui permettent de compléter, d'enrichir ce pack, comme des tirettes dans les douches, des ouvertures à distance, ou bientôt, on va lancer la tablette. Le déploiement de la tablette tactile et puis la téléassistance mobile qui est le souhait des nouvelles générations, c'est-à-dire de pouvoir avoir sur son smartphone finalement un bouton d'appel d'urgence qui va les suivre dans leur déplacement.
On voit que les nouvelles technologies sont présentes et sont maintenant devenues une aide considérable pour pouvoir maintenir les personnes, pour pouvoir se maintenir chez soi le plus longtemps possible, quoi, en fin de compte. On parlait de tout ce pack-là, comment fait-on pour en bénéficier ?
Alors c'est très simple, soit on contacte directement Dôme Creuse Assistance, soit on prend la tâche de l'unité territoriale d'action sociale d'où on ressort et on sollicite la possibilité d'installer le pack domotique à domicile. Ensuite il y a une visite de Dôme Creuse Assistance qui est notre délégataire dans le cadre de la délégation de services publics qui va venir installer le pack et qui va faire un suivi dans le temps sur une échelle de temps de un mois pour vérifier que les réglages et que l'appropriation du matériel va être correcte par la personne âgée. Cet accompagnement aux usages, c'est ce qui fait vraiment la valeur ajoutée aussi de ce dispositif. Et il est enfin à souligner que dans le pack domotique à domicile, on a une téléassistance avancée, c'est-à-dire qui tous les mois va générer des appels sortants, des appels qui vont partir donc de la plateforme vers l'usager pour s'assurer que ce dernier va bien, pour lui souhaiter un anniversaire, pour prendre un petit peu de ses nouvelles. C'est pour lutter contre l'isolement social et pour maintenir du lien par rapport à cette personne âgée.
Un mot sur l'hospitalisation à domicile. On entend parler de l'HAD, peut-être Catherine Aupetit.
Oui, effectivement, l'hospitalisation à domicile est un dispositif qui permet aux personnes, non pas uniquement aux personnes âgées, à toute personne, lorsque le temps d'hospitalisation peut être, les soins qui sont prodigués dans le cadre de l'hospitalisation peuvent être aussi prodigués à domicile par des équipes spécialisées. Qui peuvent faire appel aux infirmiers libéraux et aux médecins libéraux du territoire, mais avec des équipes quand même spécialisées qui peuvent apporter au domicile la même qualité de soins aux patients que s'il était à l'hôpital. Donc bien sûr, cela peut se réaliser lorsque on est sur des soins qui nécessitent une prise en charge une fois par jour ou deux fois par jour. Si on est sur des soins qui sont plus continus, bien sûr que l'hôpital garde sa prépondérance. Mais pour autant, lorsque les soins sont quotidiens et que sur le reste du temps, on ne nécessite pas de soins, je pense que tout un chacun, on est plutôt content de rentrer chez soi et pouvoir bénéficier de la même qualité de prestations à domicile est vraiment un plus.
Cette hospitalisation à domicile, c'est pas réservé pour les personnes âgées. Hein.
Absolument pas.
On en parle là, mais c'est pas...
Oh là là, toute personne qui... le nécessite peut y prétendre.
On revient du coup sur le maintien plus précisément à domicile. J'imagine que le conseil départemental travaille en lien avec l'ARS, bien sûr, mais aussi avec les associations d'aide à domicile, puisqu'il ne faut pas, on l'a évoqué aussi durant les assises, il faut bien penser à ça, aux aidants et aux aides à domicile qui ont un rôle important.
Tout à fait, oui. Le maillage autour de la personne pour permettre le maintien à domicile est essentiel et ce maillage peut se composer des aidants, donc de l'accompagnement familial, du voisinage, etc., mais aussi de l'accompagnement professionnel qui est, lui, prodigué par les associations d'aide et d'accompagnement, les services d'aide et d'accompagnement à domicile que nous, on appelle des SAD. En Creuse, nous en avons 7 qui maillent l'ensemble du territoire, qui sont autorisés par le département et tarifés par le département. L'idée, c'est que ces 7 services qui ont une compétence géographique dédiée permettent de mailler entièrement le territoire pour éviter les zones blanches et éviter qu'il y ait des ruptures de prise en charge dues au lieu où on habite finalement. Donc tout Creusois, quel que soit l'endroit où il habite, aussi isolé soit-il, peut prétendre à l'intervention d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile en Creuse.
Est-ce que on a une idée du nombre de personnes qui pourraient bénéficier de ces aides-là à l'heure actuelle, dans les années à venir, et qui seraient amenées à aller fréquenter des EHPAD en Creuse ? On l'a rapidement dit tout à l'heure, mais...
Alors, aujourd'hui, suivi spécifiquement dans le cadre de l'APA, on a 3900 bénéficiaires. Donc, ça veut dire 3900 personnes âgées considérées comme dépendantes dans le GIR 4 à 1. Je ne connais pas les statistiques par rapport au GIR 5 et 6, mais on estime à peu près sur le département à 18% le taux de personnes âgées qui sont actuellement dites en perte d'autonomie, donc qui ont une aide, soit d'une caisse, soit du département, pour les accompagner à leur domicile.
Catherine Petit, un dernier mot. Au niveau de l'ARS, vous encouragez le maintien à domicile des personnes jusqu'à, enfin, tant que c'est possible ?
Alors, nous accompagnons, tout comme les services du conseil départemental. L'idée est vraiment de répondre aux besoins des personnes. Donc, c'est vrai que si le besoin et l'envie de la personne est d'être maintenue à domicile, bien sûr que nous l'accompagnons, à la fois avec le maillage. Donc, on parlait des médecins généralistes, mais peut-être un acteur à ne pas oublier sur nos territoires, qui est l'infirmier libéral. Puisque, comme on le sait, la carence en médecins généralistes fait qu'ils vont de moins en moins à domicile, voire pour certains, pas du tout. Et quand on ne va pas au domicile, il y a une perte d'information extrêmement importante. Et il me semble que ceux qui continuent d'avoir ce rôle-là sont les infirmiers libéraux, qui sont un petit peu le dernier rempart pour cette population qui vit à domicile et qui vont pouvoir les accompagner, d'autant plus qu'ils identifient bien leurs besoins puisqu'ils rentrent à domicile. Donc il y a vraiment tout un maillage de professionnels qui interviennent, qu'ils soient du soin, comme donc les médecins, les infirmiers que je viens de citer, mais aussi tous les professionnels, alors, qui ne relèvent pas notre champ de compétences, mais les aides à domicile sont effectivement aussi des acteurs incontournables.
Catherine Salotte, merci beaucoup. Directrice personne en perte d'autonomie au sein du conseil départemental de la Creuse. Merci d'être venue sur cette table ronde du Graal consacrée à ces assises, premières assises nationales santé, secours et territoire qui avaient lieu en Creuse au moment où vous, auditeurs, vous écoutez cette émission. Nous, on est en plein dedans au moment où on l'enregistre. Et Catherine Aupetit, directrice adjointe de l'Agence régionale de santé de la Creuse, merci également d'être passée sur cette table ronde du Graal. Merci.
Merci à vous. Au revoir.
Sébastien Péjou.
Dernière partie de cette émission consacrée aux premières assises nationales santé, secours et territoire qui avait lieu le 14 au 15 mars. Je dis qu'il y avait lieu pour vous, auditeurs, mais nous, on est en plein dedans ici à la Souterraine. Colonel François Colomès, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en notre compagnie. Vous êtes le directeur départemental du SDIS de la Dordogne. On va parler télémédecine et de vos expériences, d'une expérimentation qui est menée depuis 15 mois à peu près, ce que vous me disiez tout à l'heure.
Oui, nous avons démarré cette expérimentation au mois de novembre de 2017. Et nous la poursuivons sur l'année 2019. Alors, il s'agit d'une expérimentation de télémédecine d'urgence pré-hospitalière.
Alors voilà, va falloir nous expliquer tout ça, de quoi il s'agit. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer, pour les auditeurs, c'est quoi la télémédecine ? Juste avant qu'on parle de votre expérimentation, concrètement, c'est quoi la télémédecine ?
Alors, peut-être avant de parler de télémédecine, il faut préciser sur quel secteur géographique cette expérimentation a été conduite et pourquoi. En fait, nous sommes dans le nord d'Ordogne, l'arrondissement de Nontron, qui est une sous-préfecture, qui s'étend sur un territoire à peu près de 150 km de côté. Ça fait à peu près 1500 km². Ça regroupe à peu près 70 communes pour une population d'environ 34 000 habitants. un habitat assez dispersé d'ailleurs, puisque nous avons des densités de population qui sont comprises entre 10 habitants au kilomètre carré et 100 habitants au kilomètre carré. Donc vous voyez, on donne un peu le décor. Cette partie de notre département connaît bien sûr un vieillissement de la population qui est assez significatif, une déprise médicale aussi parce que les médecins vieillissent et ne sont pas systématiquement remplacés. Et puis c'est un secteur du département qui est situé à plus de 40 minutes d'une structure d'urgence mobile hospitalière, ce qu'on appelle les SMUR. Et donc face à ce contexte et aux problématiques que soulève la difficulté d'accès aux soins d'urgence de ce secteur, les élus se sont un peu émus, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, de cette situation, ont interpellé les pouvoirs publics locaux, et malheureusement il n'était pas possible d'installer un service mobile d'urgence et de réanimation sur ce secteur en situation de proximité. Donc le SDIS de la Dordogne avec l'hôpital de Périgueux et le SAMU, nous nous sommes posés un certain nombre de questions et on s'est dit voilà, on ne peut pas rester les mains dans les poches, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme solution alternative pour répondre à une commande politique, celle d'apporter à nos concitoyens une meilleure offre de soins de proximité en situation d'urgence, et puis en même temps montrer que les services publics que nous sommes pouvons proposer des solutions alternatives. Donc on est parti sur ce projet. Et la télémédecine, qu'est-ce que c'est? C'est ni plus ni moins qu'un dispositif qui permet au travers d'une caméra haute définition avec une liaison audio d'établir une relation de proximité entre le patient qui se trouve en un point donné du territoire et le médecin sachant, spécialiste le cas échéant, de la pathologie dont relève le patient, qui va pouvoir formaliser un diagnostic à distance. Alors, il y a plusieurs formes de télémédecine. La représentante de la Société française de télémédecine le rappelait tout à l'heure. Mais nous sommes sur un périmètre qui est bien défini, qui est une forme de un peu de téléassistance et de télédiagnostic, parce que d'un côté on va avoir bien sûr le médecin à l'hôpital, à l'autre bout je dirais du dispositif, et sur le terrain avec le dispositif de télémédecine qui se présente sous forme d'une valise, une équipe de 2 sapeurs-pompiers, un secouriste, conducteur du véhicule qui achemine la valise, et une infirmière ou un infirmier de sapeurs-pompiers qui va mettre en œuvre des gestes en pratique déléguée ou en protocole de soins d'urgence qui lui ont été enseignés, pour lesquels il ou elle a reçu une formation, et qui vont permettre aux médecins de prodiguer les soins à distance. Donc on a un médecin d'un côté qui retrouve la vue et l'ouïe au travers de la valise de télémédecine, et à l'extrémité, une infirmière ou un infirmier qui est le bras armé du médecin, qui va pouvoir réaliser les gestes à distance.
Ça, c'est cette expérimentation. La télémédecine, est-ce que ça peut être, avant réellement de rentrer dans votre expérimentation, est-ce qu'on peut imaginer que ça peut être chacun chez soi, avec une webcam, où on peut avoir comme ça en lien son médecin? C'est pas vraiment ça?
Alors, si, en fait, il y a 5 domaines d'activité de la télémédecine. Il y a la télé-expertise, celle qui permet à des médecins entre eux d'échanger sur un certain nombre de points de vue et de confronter des éléments de diagnostic. Il y a la téléassistance, où là on a effectivement d'un côté le médecin et de l'autre côté quelqu'un qui va intervenir pour le compte du médecin. Il y a la télémédecine d'urgence telle que nous la pratiquons, voilà, avec des protocoles et des gestes de pratique avancée. Voilà. Et puis après, il y a d'autres formes de télémédecine. Voilà. Donc nous sommes sur un périmètre qui est bien circonscrit, mais on a en fait dans ces pratiques qui permettent d'établir un lien entre un médecin qui est le sachant et un interlocuteur à l'autre bout, qui est soit le patient seul, soit le patient accompagné lui-même d'un autre médecin ou d'un personnel soignant ou d'un professionnel de santé, la possibilité donc de réaliser cette, on peut pas dire cette consultation à distance, mais on est très proche de cela.
Est-ce que ça remplace un petit peu le médecin, parce qu'on a... On avait entendu un petit peu durant ces assises les difficultés pour les pompiers de recruter des médecins au sein de leur rang. Est-ce que là, on le remplace un petit peu avec ce système?
Alors, il faut être prudent parce que nous, on a bien insisté dans la présentation de l'atelier et dans la mise en œuvre du dispositif. La pratique que nous proposons ne consiste pas à substituer un dispositif à un autre. En fait, on est parti d'un constat qui était celui d'une déprise médicale.
Et oui.
Mais chaque fois qu'on a la possibilité de s'appuyer sur un professionnel de santé, un médecin ou un infirmier en appui de nos équipes, on ne se prive pas de cette possibilité. Par contre, il y a des situations pour lesquelles ni le médecin, ni... Le professionnel de santé en relation de proximité peut se rendre disponible. Donc c'est tout l'intérêt de cette solution, c'est de pouvoir disposer d'un binôme secouriste et infirmier qui va se rendre sur les lieux et qui va permettre au mieux de faire une levée de doute et au pire de prodiguer des soins à distance sur les conseils éclairés du médecin qui se trouve à l'autre bout. Voilà.
Ça fait 15 mois que vous expérimentez ça, quels sont les premiers retours ?
Alors sur 15 mois d'expérimentation, nous avons à peu près de l'ordre de 220 interventions réalisées. Sur ces 220 interventions réalisées, ce que l'on peut tout de suite constater, c'est que dans les périmètres des situations d'urgence que nous avons identifiées conjointement avec le SAMU, c'est qu'on gagne un temps précieux. Parce que comme je le disais dans mes propos introductifs, nous sommes à plus de 40 minutes d'un hôpital et d'une structure d'urgence. Ça veut dire que si on prend les recommandations qui sont formulées par certaines sociétés savantes qui préconisent une prise en charge entre le moment où l'événement se produit et le moment où le patient doit se trouver sur le plateau technique spécialisé, il faut théoriquement qu'il ne s'écoule pas plus d'une heure à deux heures grand maximum. Donc vous imaginez bien que quand on est à 40 minutes d'une structure de soins d'urgence, le premier quart d'heure, il est essentiel, il compte énormément. Ça veut dire que dans le premier quart d'heure, je dois prendre le plus vite possible la moins mauvaise décision pour permettre à mon patient d'avoir le maximum de chances d'être pris en charge dans de bonnes conditions. Voilà. Donc tout l'enjeu est là. Et aujourd'hui, on peut effectivement affirmer que de ce côté-là, on a de très bons retours et en même temps, on a d'autres retours qui sont intéressants, qu'on n'avait peut-être pas évalués au départ, mais on estime à peu près de l'ordre de 13 à 15% les situations qui, sur une présomption d'urgence, ne nécessitent pas a posteriori, après qu'un diagnostic médical ait pu être posé au travers de ce système de télémédecine, ne nécessite pas d'évacuation vers le milieu hospitalier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire pour des personnes âgées notamment, c'est extrêmement précieux parce que on sait que l'hospitalisation d'une personne âgée est toujours fortement déstabilisatrice à la fois de son environnement et de son état de santé. Et là, on va pouvoir la maintenir chez elle ou lui recommander une consultation auprès justement de son médecin traitant ou auprès du professionnel de santé qui la suit au quotidien. Et donc de ce côté-là, ça permet d'abord d'optimiser l'utilisation du service public d'urgence médicale et en même temps, ça évite des hospitalisations inutiles.
Voilà, c'est ce que j'allais vous dire aussi puisque les pompiers, vous êtes pompiers, mais d'autres pompiers ont dit qu'un des problèmes... c'était l'engorgement, du moins l'abus d'utilisation des pompiers pour des situations qui ne seront pas urgentes. Et cette situation-là se retrouve aussi au niveau des urgences, qui sont parfois encombrées pour ce qu'on peut appeler de la bobologie, disons quelque chose qui, dans des situations qui ne nécessitent pas vraiment d'urgence. Donc ce système-là peut aussi permettre de limiter...
Alors il est d'autant plus pertinent que... Je rappelle que nous sommes vraiment, on est dans le cœur de métier là. C'est-à-dire que les situations qui sont identifiées et pour lesquelles nous engageons le véhicule d'intervention de soins d'urgence avec la fameuse valise de télémédecine sont des périmètres de sollicitation qui relèvent de nos missions. Et pour autant, on voit que, bien qu'étant sur notre périmètre d'activité, une fois que le doute est levé, on a entre 12 et 15%.
C'est beaucoup. Hein.
Ce qui est pas mal quand même. Mais de situations pour lesquelles une hospitalisation n'est pas systématiquement nécessaire. Et ça laisse réfléchir. Mmh. Alors, ça laisse d'autant plus réfléchir qu'à ce stade de l'expérimentation, si effectivement on ne peut que se féliciter de ce genre de constat, on reste quand même avec un certain nombre d'interrogations sur, sur le modèle économique, parce que les économies que le service d'incendie et de secours et le SAMU font réaliser aujourd'hui à la collectivité publique en général, c'est surtout l'assurance maladie qui en bénéficie. Et malheureusement, à ce stade de l'expérimentation, la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas vraiment partie prenante. C'est un peu le grand absent du débat. Mais on est dans une phase d'expérimentation, donc c'est fait aussi pour ça. C'est fait pour soulever un certain nombre d'interrogations, de problématiques. Aujourd'hui, on a un retour suffisant pour dire, il y a un interlocuteur qui est absent, qui doit absolument prendre part à la discussion, qui est la caisse primaire d'assurance maladie, la sécurité sociale, et qui doit, à son niveau, accompagner la démarche et nous proposer des solutions.
Cette expérimentation, elle se poursuit jusqu'à quand ?
Fin 2019, avec une évaluation qui sera conduite conjointement par le service départemental d'incendie et de secours, le centre hospitalier de Périgueux, la délégation territoriale de l'agence régionale de santé de Dordogne, qui nous accompagne sur le projet, et l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Voilà, nous espérons qu'à l'issue, le modèle pourra être construit à la fois sur le plan technique, juridique et économique, et que derrière, des solutions pérennes pourront voir le jour, parce que sur notre département, nous estimons encore au moins deux ou trois secteurs équivalents à celui du Nord d'Ordogne qui pourraient justifier d'un équipement identique.
Vous avez parlé avec vos collègues, ces deux journées étaient faites pour ça. D'autres départements ont manifesté un intérêt pour ce genre d'équipement ?
Alors nous avons animé un atelier sur la présentation du dispositif et les enseignements que l'on a pu en tirer. Et oui, c'est vrai qu'au travers de cet atelier, qui rassemblait une centaine de participants, on a eu beaucoup de questions avec des intérêts exprimés de la part de départements à peu près identiques aux nôtres. On sait que les collègues de la Creuse sont également intéressés par cette démarche parce qu'ils ont des problématiques identiques. J'ai vu un collègue des Alpes de Haute-Provence, d'autres départements à dominante rurale et avec un habitat relativement dispersé comme le nôtre qui se posent ces questions et qui s'intéressent à la possibilité d'apporter des réponses de ce type.
Colonel François Colomès, c'est déjà la fin de ce moment en votre compagnie. Merci d'être venu sur cette table ronde du Graal. Je rappelle que vous êtes le directeur départemental du SDIS de la Dordogne. Merci pour ce retour sur votre expérimentation de ce nouveau mode de fonctionnement, de la télémédecine. Il va falloir qu'on s'habitue à ce genre de choses à l'avenir, de plus en plus. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette émission sur les premières assises nationales santé, secours et territoire. Merci au SDIS de la Creuse pour son accueil. Merci à Patrick Ergen, merci à Catherine Aupetit, à vous, le colonel François Colomès et également Karine Salotte, à la réalisation Thierry Bolaton. Merci à tous, à très bientôt.